Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut faire des calculs, on peut faire des manips, des applications numériques, avec ou sans croûte. Vous avez pu remarquer que j'ai quasiment jamais parlé de croûte pour l'instant, j'ai parlé de lithosphère. Là, on va commencer à envisager d'y mettre de la croûte. Donc, on va faire des manips, enfin, on peut faire une manip, et puis on va faire des calculs. Calculs qui seraient faisables par des élèves de terminale. C'est-à-dire, l'opération la plus difficile sera de multiplier par un sinus. Ce qu'un élève de terminale devrait pouvoir faire. Alors, première question qu'on se demande, peut-on faire des modèles analogiques réalistes? Faire de la tectonique des plaques en aquarium. Alors attention, le but d'une manip, en particulier à la grecque, c'est pas de manipuler, mais de faire des modèles réalistes qui apportent de vrais renseignements et pas des idées fausses. Je vous donne un exemple, un modèle que beaucoup de gens peuvent faire, qui n'a rien à voir avec la convection mantellique. Les profs sont très contents de le faire, mais ça mène des idées fausses. C'est modéliser l'effet de serre de l'atmosphère avec une plaque et j'appelle ça une cloche à fromage. Vous prenez par exemple une plaque, quelque chose, vous mettez un thermomètre, vous l'éclairez avec une lampe, vous mesurez la température au bout d'un certain temps, vous mettez la cloche à fromage dessus, vous attendez un certain temps, et vous voyez que quand il y a la cloche à fromage, eh ben la température est plus, il fait plus chaud sous la cloche à fromage. Je dis voilà, j'ai démontré l'effet de serre, vous êtes content, vous avez fait monter un thermomètre. Moi, qui suis vieux, je prenais pas ma température et machin, je prenais ma température en me foutant un thermomètre dans le cul. Hein, je sais pas si ça se fait encore maintenant, un thermomètre à prise de température rectale, comme on disait. Et ben, pour faire monter un thermomètre, il y a plus facile que de le mettre sous une cloche à fromage et se foutre dans le cul. Donc, si vous voulez faire monter un thermomètre, pourquoi la manip cloche à fromage est idiote, absurde, débile? Bien sûr, vous avez fait monter la température. Mais l'effet de serre de la Terre, c'est parce que vous éclairez avec des longueurs d'onde d'un corps à 5000 degrés, le soleil. Donc l'essentiel de l'énergie est dans les lumières visibles. Si vous prenez une lampe à incandescence, que tu as, allez, 2000 degrés grand maximum, l'essentiel de l'énergie d'une lampe à incandescence, c'est dans l'infrarouge. Donc déjà, vous chauffez une serre, qui est opaque aux infrarouges, avec essentiellement de l'infrarouge. Alors que le soleil chauffe une serre, l'atmosphère de la Terre, mais avec une longueur d'onde qui n'est pas d'infrarouge. Donc la lumière solaire traverse, enfin, l'énergie solaire, la majorité traverse la cloche à fromage, traverse l'atmosphère, cloche à fromage, l'énergie d'une lampe ne traverse pas la cloche à fromage. Déjà, si vous faites la manip, il faudrait la faire avec la lumière du soleil, donc la faire dehors, et non pas avec une lampe. Deuxièmement, quand vous mettez une cloche à fromage, il y a ce qu'on appelle l'effet couvercle. Vous chauffez ce qu'il y a dessous. Donc l'air chaud va avoir tendance à monter, convection. S'il n'y a pas de cloche à fromage, il va monter, va se disperser. Vous refroidissez bien. La cloche à fromage empêche de refroidir par convection. Sur la Terre, de toute façon, l'air ne va pas quitter la Terre. Donc, la cloche à fromage, il y a un effet couvercle, qui n'est pas l'effet de serre. Donc il faudrait séparer, s'il faudrait prendre une vitre, une cloche à fromage, qui serait transparente aux infrarouges, puisque votre lampe éclaire infrarouge, pour voir l'effet couvercle versus l'effet pas couvercle. Alors des corps qui soient transparents aux infrarouges, facile, il y a le sel gemme, on peut faire une cloche en sel gemme, c'est pas facile, ou en diamant, ça marche aussi, pas facile non plus. Donc quand vous mesurez un thermomètre qui monte sous une serre, vous montrez, vous savez pas quoi, parce que vous éclairez pas avec les bonnes longueurs d'onde, et vous faites deux effets, l'effet serre éventuel et l'effet couvercle. Il n'a rien à voir. Mais vous êtes content, vous avez fait monter un thermomètre et votre élève est content, vous avez fait manipuler. C'est de la fausse science, ça. Donc faites attention que vous faites des manips, il faut que vous montriez des choses. Si vous voulez faire monter un thermomètre, vous le foutez dans le cul, ça marche très bien. Dites pas ça le jour J, maintenant on n'a plus le droit de parler de cul. Alors vous mettez un thermomètre dans le rectum. Alors, peut-on faire des modèles analogiques réalistes? Il faut vraiment insister sur le réaliste. Si vous faites ça, il faut prendre conscience aux élèves ou au jury qu'en prenant un liquide, ce qu'on va faire, vous devez diminuer la viscosité d'un facteur 10 puissance 20 par rapport au manteau. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Parce que si vous voulez faire convecter un morceau de péridotite, vous passerez la grecque, vous aurez votre résultat dans quelques millions d'années. Mais peut-être que ça change quand même beaucoup de choses. Il faut vraiment dire, attention, je vais le faire, mais j'ai pris conscience qu'il faudra vraiment que je vérifie que tous mes modèles ont été augmentés ou divisés d'un facteur 10 puissance 20, ce qu'on appelle l'homogénéité de la chose. C'est pas facile. Il sera impératif d'insister sur le rôle majeur de la source de froid supérieur. Sur la Terre, on l'a vu, j'espère que vous êtes convaincus, que c'est surtout le froid en haut qui compte. Souvent, dans une casserole, on chauffe par en bas et on ne refroidit pas par en haut. Zéro. Mais si c'est pour faire maniper, hein, pour que les gamins aient les mains dans le cambouis, ça va. On ne pourrait pas chauffer le liquide dans la masse, avec un montage simple. Donc on ne reproduira pas les modalités de la convection mantélique, c'est terrible. Alors pour la convection atmosphérique, c'est très bien, parce que la convection atmosphérique, vous pouvez chauffer par en bas, parce que l'atmosphère est chauffée par en bas. Tu sais pourquoi l'atmosphère est chauffée par en bas? Toi là. Oui? Terrestre, elle est chauffée par en bas. C'est contraire au midi-quart. Un midi-quart, il met des plumes sur la cire, il monte. Quand il s'approche du soleil, ça fond. Or, tu sais très bien que quand tu montes, la température baisse. C'est pour ça qu'on va faire du ski en montagne. Pourquoi est-ce que l'atmosphère de la Terre est chauffée par en bas? La lumière, voilà. Voilà. Qui réémet, renvoyer, réémet, c'est de la réflexion. Le soleil, la lumière solaire, c'est autour de 0,5 micron de longueur d'onde. L'atmosphère est transparente à cette lumière-là. Donc l'atmosphère terrestre n'est pas chauffée par le soleil. Prenez une voiture, mettez-la au soleil. Vous avez le toit métallique et la vitre qui est en verre. Attendez 10 minutes et comparez la température de la vitre et la température du toit. Une vitre transparente, et sera beaucoup moins chaude que le toit pas transparent. Donc l'atmosphère terrestre n'est pas chauffée par le soleil. Par contre, le sol est opaque, il absorbe la chaleur. Donc il se réchauffe, et il réémet, mais il n'est pas à 6000 degrés. Il est à 25 degrés. Donc à 25 degrés, vous rémettez en infrarouge. C'est pas parce que vous rémettez par le bas, c'est parce que vous rémettez une autre énergie. Il arrive des petites longueurs d'onde, et le sol renvoie des grandes longueurs d'onde. Or, à cause de la vapeur d'eau, du CO2, du méthane, l'atmosphère est opaque aux infrarouges. Donc l'atmosphère est chauffée par le bas, et non pas par le haut. Donc elle convecte. La troposphère, hein. La stratosphère, c'est autre chose. Donc vous pourrez facilement faire de la convection atmosphérique, avec une casserole, mais mantélique, c'est plus dur. Et vous pourrez vous affranchir de cette difficulté en travaillant en régime transitoire. Si vous avez de l'eau, Damien a installé cet aquarium, vendredi matin. Donc, puis vendredi, l'eau est thermalisée. Elle est à la température de la pièce. Si, par exemple, je la refroidis un petit peu, en mettant un glaçon, elle va se refroidir localement, mais le stock de chaleur, j'en prendrai pas beaucoup. Je suis en régime transitoire. Voilà. Si je réchauffe ou je refroidis ponctuellement, pendant un petit moment, ça sera comme si c'était un régime permanent. Pas longtemps. Si je mets beaucoup de glaçons, ça sera froid. Donc, on va travailler un régime transitoire, pas beaucoup, en refroidissant un liquide chaud par la surface, essayer de refaire une subduction, en réchauffant ponctuellement par le bas, en essayant de faire un point chaud. On va voir ce que ça donne. Mais je suis très mécontent parce que je n'ai pas trouvé facilement de faire mieux. Alors ensuite, comment visualiser la convection? Alors dans tous les bons livres, c'est un oxymore parce que les livres de classe sont rarement bons, on fait une casserole de thé, on met des paillettes de thé, on voit que ça tourne. Alors, il y a d'autres manips. Mais la manip la plus, je trouve, élégante, qui est tout à fait classique en physique, à la grecque de physique, c'est d'avoir un TP qui s'appelle l'ombroscopie, c'est le suivant. Vous avez un écran. Vous l'avez là-bas. Vous l'avez ici. Ça, c'est vu de dessus. Vous avez un aquarium. Vu de dessus. Il est là-bas, l'aquarium. Vous avez une source de rayons parallèles. Et là. Alors, les physiciens, quand ils font leur manip, alors c'est tout un dispositif compliqué, vous avez une source de lumière, un miroir convexe ou concave, pour avoir un beau faisceau de lumière parallèle, ils veulent que ce soit parallèle, c'est normal, ils font de la physique. Ma source de rayon lumineux parallèle, ça va être un rétroprojecteur ou un vidéoprojecteur, ça me suffit, c'est pas rigoureusement parallèle, mais pour ce que je vais en faire, ça va. Donc tout ça c'est vu par-dessus, le faisceau est perpendiculaire aux parois de l'aquarium, donc de toute façon, quand ça arrive, comme l'angle est droit, ce n'est pas dévié. Et ça ressort. Imaginez que j'ai une anomalie thermique. Ici, un endroit où c'est plus chaud ou plus froid. Par exemple, c'est plus froid parce que j'ai mis un glaçon, il y a de l'eau froide qui coule, enfin qui descend du glaçon. Cette eau froide n'aura pas le même indice de réfraction que l'eau chaude. Ou alors j'ai mis une résistance chauffante, parce que j'ai mis du rouge, gaz dans le toit de couleur. Résistance chauffante, c'est de l'eau chaude. Ailleurs, c'est froid. Donc l'eau va être déviée. Le faisceau va être dévié. Puisqu'il va être dévié, tel que je l'ai dessiné, ben ici, il n'y aura quasiment pas de lumière. Donc vous verrez quelque chose de noir, alors qu'ailleurs, ça sera blanc. Alors, je vous montre le résultat, puis après on fera la manip, c'est pas très pédagogique, mais je suis pas sûr que ça marche bien, puis c'est quand même pas très grand. Là, c'est une résistance chauffante. J'allume le courant. Alors le courant, hein, c'est deux piles électriques. Il y a 3-4 ans, j'ai fait cette manip, et il y a quelqu'un qui sortait d'un IUFM quelconque, maintenant ça s'appelle plus un IUFM, ça s'appelle un comment, NISP, ou je sais pas quoi, puis ça a encore changé. Avant, ça s'appelait, maintenant ça s'appelait INSP, hein, c'est ça? Je me suis aperçu, je ne pense pas qu'ils sont venus, INSPE, c'est l'anagramme de pénis. Bon, mais ils n'ont même pas vu tellement qu'ils sont cons. Quand on n'a rien à dire, on change de nom. Comment ça s'appelait avant, les ESPE? Là, maintenant, ça s'appelle les INSPE. Donc bientôt, ce sera le pénis. Hein. On m'a dit, mais est-ce que vous avez le droit de faire une manip avec de l'eau et de l'électricité? Ça doit être marqué. Alors, effectivement, si vous maniez du 220 volts de l'eau, etc., il faut faire attention. Mais des piles électriques de 4,5 volts, les dangers, mais il y a des gens qui apprennent, comme à l'école coranique ou à la scolastique au Moyen-Âge, par cœur, sans comprendre, eau, électricité, ensemble, manipulera, point. C'est idiot. Quand j'étais petit, pour voir si une pile avait encore du courant, on mettait ça sur la langue, et s'il y avait du courant, ça picotait. Certains ont déjà fait ça, non? Voilà. Bon. Donc je me suis fait engueuler parce que je faisais une manip avec de l'eau, de l'électricité. Directement sorti du pénis. Encore qu'un pénis, c'est bien, ça sert, c'est très utile. Par contre, le SPE, comme inutilité, c'est parfait. Scientifique, hein, pédagogiquement, j'en sais rien, mais au point de vue scientifique, c'est nul et non avenu. Donc là, vous avez une source de chaleur, et puis l'eau chaude qui monte, et on voit l'endroit où elle est plus chaude qu'ailleurs. Et pour frimer, ça, cette morphologie que vous avez peut-être déjà vue, c'est un courant, ici ascendant, qui arrive dans de l'eau stable. C'est pareil que si vous avez une rivière bien chargée, turbide, qui arrive dans un lac, et vous avez exactement la même forme. J'ai pris cette photo au péril de ma liberté. J'étais en avion de l'aéroflotte à l'époque de l'URSS. Toute prise de photo par le hublot était interdite, parce qu'on aurait pu faire les espions, c'est la guerre froide. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, je ne peux pas résister, j'ai sorti. Alors, je me suis caché pour le prendre, mais je suis sûr qu'une hôtesse m'a vu, mais comme je me cachais, l'honneur était sauf. Elle pouvait faire semblant de ne pas m'avoir vu. Donc, si tout va bien, on va voir ça, et cette morphologie est classique d'un fluide en mouvement qui arrive dans une grosse masse de fluide calme. Donc, voilà ce qu'on va voir. Alors, on va le voir, voir si ça marche. Pourvu que ça marche. Alors, je vous conseille, on va d'abord éteindre tout, ce sera mieux, je ne sais pas, soit vous vous levez, soit vous restez là, ceux qui sont là-haut verront moins bien. Si vous vous levez, il faudra de toute façon pas vous mettre, absolument ne pas vous mettre sur le trajet, le faisceau lumineux. Ça, c'est impératif. Moi, je vais me mettre par là. Alors, pour montrer le principe, peut-être la solution la plus simple, je prends un peu de glace, c'est une boîte à glaçons. Le glaçon fond, ça fait de l'eau froide qui est plus dense et qui coule. C'est beau, hein? Alors là, vous ne voyez évidemment rien, mais là, vous voyez. Vous visualisez la convection. Et ça va marcher tant que le glaçon n'aura pas fondu. C'est visuel, c'est beau. Alors, vous pouvez faire la même chose en mettant une source de chaleur. Donc, Alors la source de chaleur, c'est quelque chose de hautement perfectionné. Des piles, deux piles de 4,5 V. Là, c'est une résistance chauffante. Alors qu'est-ce que c'est que ma résistance chauffante? J'ai pris une mine de critérium. C'est les crayons. C'est du graphite, les mines de critérium. Plus ou moins mélangé à de l'argile, suivant la dureté du crayon. J'ai mis deux fils électriques pour aller regarder qui sont attachés, mais qui se touchent pas. Le courant est obligé, le courant venant des piles est obligé de traverser la mine de crayon, qui a une forte résistance, et ça chauffe. Et là, vous voyez presque le panache. Donc, l'eau froide descend, l'eau chaude monte. Quelle surprise! Alors, on dit, on va essayer de reconstituer une subduction. Alors, pour reconstituer une subduction, je dis, je vais refroidir par la surface. Alors là, il y a un peu d'eau pour bien mettre le contact. Là, je mets de la glace dans une boîte. Et donc, je refroidis de façon homogène et par la surface. Si je faisais une subduction, je verrais quelque chose qui ferait par exemple comme ça. Eh bien, on va voir si c'est vrai. Ben non. Vous avez une multitude, si je puis dire, de points froids. Vous n'avez pas quelque chose qui part et qui s'enfonce. À l'aplomb de la surface froide, ça descend partout. Donc vous ne simulez pas une subduction. Pourtant, je refroidis par la surface. On pourra discuter tout à l'heure pourquoi. Alors je peux aussi chauffer par en bas. Alors là, j'ai un petit réchaud. Alors c'est long, je fais. Et là, ça va monter. Alors c'est pas du tout une bonne analogie pour la convection mantélique, puisqu'on chauffe en gros pas par en bas. Mais ça sera quelque chose de bien pour la convection atmosphérique, où vous chauffez par en bas et vous refroidissez par en haut. Et là, on va pouvoir peut-être reconstituer une cellule, type cellule de Hadley, avec les ascendances équatoriales et les descendances zone tempérée. On va voir si ça marche. En attendant, on peut donner un petit coup de poing chaud, c'est joli. On peut faire un poing froid aussi. Point froid. Donc vous avez un point froid, un point chaud. La subduction, ça marche pas. Bon, on va pas trop vider la pile. Hein. Économisons l'énergie. Et là, normalement, tant que la plaque chauffe, on va voir, et ça va monter, mais à peu près comme ici, là, ça descend sur toute la surface, là, ça va monter sur toute la surface. Si on attend longtemps, ça va faire une boucle de convection. Par exemple, une cellule de Hadley, pour prendre l'analogie atmosphérique, avec l'équateur et les zones tempérées. Mais on ne fera pas, hélas, de subduction. Ni de dorsale, ni rien de tout ça. Il faudra essayer de comprendre pourquoi. Voilà, ça commence à chauffer par en bas. Alors ça chauffe que sur la moitié droite, enfin, droite pour moi, et gauche pour vous. Voilà, là vous avez les ascendances équatoriales. Et là vous avez l'air froid qui descend, une altitude plus haute. Et il va se faire une boucle. Mais c'est absolument pas ni une dorsale ni une subduction qu'on fait. Alors là, comme il y a la convection, là, puisque ça commence à tourner là, puisque là ça monte, ça va être dévié par là-bas. Voilà, donc on peut s'amuser longtemps. Hein. Donc vous pouvez visualiser la convection. Petit coup de poing chaud en plus. Poing chaud qui se fait, qui se surajoute à la convection. Là, c'est ma centrale nucléaire. Et voilà, là, vous avez une belle cellule de convection atmosphérique. Mantélique, jamais vous ne verrez ça. Enfin, on ne l'a jamais vu, en tout cas. Des questions? Oui, c'est pas difficile à faire. Alors, Damien n'aime pas que je... Il me dit, on la montrera pas au début, parce qu'ils vont tous me la demander. Bon, vous l'avez tous vu. Vous pourrez venir voir tout à l'heure l'extraordinaire difficulté du montage. Hein, deux piles, une mine de crayon, de la glace. C'est le bœuf à bas du bricolage. Même dans un lycée à Marvejols, sous préfecture de la Lozère, vous pouvez avoir ça. Là, elle est belle, cette cellule de convection. Je crois que ça... Alors, faut là, tu peux me l'attacher au col, que le micro soit en haut et pas trop près de la barbe.
C'est bon.
A priori, c'est bon. J'espère que c'est à peu près à la même distance. Ben oui, mais moi non plus. Donc... Olivier, si tu m'entends, je ne pense pas que tu m'entendes, mais si jamais tu m'entends, viens regarder. Comment on fait pour regarder si c'est, le son est bon? Si j'ouvre, je vais tout changer. Oh, non. Si, ça devrait aller. Il y a un petit machin qui bouge. Regardez, si elle est belle, ma cellule de convection. Hop! Alors. Donc, on n'arrive pas à simuler une subduction, même en refroidissant toute une surface. On fait plutôt une série de points froids coalescents et non pas une subduction. Alors, on peut faire des machins à deux couches. Là, vous avez de l'eau, de l'huile. Et vous avez toutes ces manips qui sont sur planète Terre, avec des films à une couche, à deux couches. Donc, vous pouvez, si vous pensez que c'est trop long à faire la manip le jour J, c'est bien le jour J de faire une manip, mais une manip, c'est chronophage. Donc comme c'est chronophage, ça prend du temps sur autre chose que vous ne direz pas, il faut faire le balance. Je gagne des points en faisant une manip, mais je perds du temps. J'utilise du temps, je ne dirai pas autre chose. Vous essayez que le bilan soit positif. Pas toujours facile. Pourquoi est-ce qu'on ne me réussit pas, avec des simulations analogiques simples, de reproduire une subduction, par exemple? Il y a deux raisons. L'eau ne change quasiment pas de viscosité quand on change la température. L'eau bouillante, c'est pas plus mou que l'eau froide. Je parle pas de la glace. Hein. Or, pour le manteau, la péridotite, il y a un facteur 10 puissance 4 de viscosité entre la viscosité de la couche limite thermique, la lithosphère, et celle du manteau sous-jacent, la sénosphère. Donc la lithosphère est 10 000 fois plus visqueuse que la sénosphère, ce qui n'est pas le cas de l'eau chaude et l'eau froide. C'est pareil. Donc la couche limite thermique, la lithosphère océanique, a une individualité mécanique en plus de son individualité thermique. Pour simplifier, c'est froid, mais c'est froid et rigide, et dessous, c'est chaud et mou. Et il y a donc une indépendance mécanique. Et la même chose, c'est que la lithosphère océanique, couche limite thermique, possède un flotteur. Et la première fois que j'en parle, c'est la croûte. Alors, la croûte océanique, c'est un flotteur qui est moyennement efficace. Toi, par exemple, monsieur Decamp, quelle est la densité de la croûte océanique en moyenne? J'entends pas.
De
8, de 9, et celle du manteau? 3,3. Donc, la croûte océanique, de 9, c'est moins dense, et surtout, c'est pas épais. Alors que la croûte continentale, densité? De 7, et épaisseur? 30 à 40. Donc la croûte continentale, c'est moins dense que la croûte océanique, surtout beaucoup plus épais. Donc les deux ont un rôle de flotteur, mais la croûte océanique, c'est un flotteur moyennement efficace. La croûte continentale, c'est un flotteur très efficace. Alors je vous signale que dans le temps, quand j'étais petit, on disait que comme la croûte océanique était dense, c'est elle qui plongeait. Vous avez peut-être déjà entendu ça. C'est idiot, elle est moins dense que ce qu'il y a dessous. De toute façon, donc elle n'a aucune raison de plonger, puisqu'elle est moins dense. Alors, à défaut de faire des modèles réalistes, on n'y arrive pas. Il faut faire des calculs simples. Bon, ça c'est pour faire joli, on ne va pas faire des calculs aussi compliqués. On va faire des calculs simples. soyez bien conscient qu'il ne s'agit que d'approximations, simplifications, parfois grossières. On a le droit de faire des simplifications grossières, il faut en être conscient. Il faut le dire, et il faut dire éventuellement pourquoi vous les faites. Là, c'est que les élèves de première ou de terminale devraient pouvoir les faire. Donc ça ne va pas être des opérations compliquées avec des racines ou des intégrales ou des choses comme ça. Le but n'est que donner des ordres de grandeur et non pas des valeurs précises. Et pour faire des calculs et qui donnent des ordres de grandeur, il faut avoir une idée des valeurs, des densités, des choses comme ça. Par exemple, la croûte océanique, à 0 degré, ça dépend de son degré d'hydratation, c'est entre 2800 et 2900 kg par mètre cube. Quand on fait des calculs, il faut faire très attention aux unités. Vous prenez le système d'unités que vous voulez, s'il est homogène. Alors, vous pouvez même prendre le système anglo-saxon, si vous voulez, mais que ça soit homogène. Mettez pas des degrés Fahrenheit avec des degrés Kelvin. Donc là, par exemple, la masse volumique, je prends que des kilos par mètre cube. La densité de la péridotite à 0 degré, c'est 3350 kilos par mètre cube. La température de l'lithosphère, c'est 0 degré en haut, 1300 en bas. Rappelez-vous, le gradient est à peu près homogène. Ça fait une moyenne de 650 degrés. Donc la température moyenne de la lithosphère, 650 degrés. Température moyenne de la sténosphère, au gradient adiabatique près, c'est 1300 degrés. Là, j'ai pris des Celsius, je prends toujours des Celsius. Je ne mettrai pas des Kelvin et des Celsius mélangés, et encore moins des Fahrenheit. Le coefficient de dilatation de la péridotite, c'est 2,5 10 moins 5 par degré. Là, je peux mettre des degrés Kelvin ou des degrés Celsius, c'est la même valeur. Pas le même chiffre, mais la même... C'est-à-dire que si j'augmente la température de 1 degré, j'augmente la taille de ma péridotite de 2,5 10 moins 5. C'est pas beaucoup, hein, c'est un 100 millième. Mais 1 degré de plus, je dilate d'un 100 millième. La variation de volume, dV sur V, qui est l'inverse de la variation de masse volumique, d rho sur rho. Hein. Si le volume augmente, c'est que la masse volumique diminue. C'est pour ça qu'il y a un signe moins. C'est alpha dt. Alpha, c'est le coefficient de dilatation thermique. dt, c'est la variation température. Un corps se dilate de façon proportionnelle à l'écart température. Si vous passez de 0 à 10, ça se dilate deux fois moins que si vous passez de 0 à 20. Pour 650 degrés d'écart de température, qui est la différence de température entre la lithosphère et la sténosphère, je parle de la partie mantélique, vous avez delta rho, la variation de densité, c'est rho, alpha, delta t. La densité d'une certaine température, le coefficient de coefficient dilatation thermique et l'écart de température. Si je prends ça, c'est 3500, c'est la densité de la péridotite à 0 degré, fois le coefficient de dilatation thermique, fois la température de la lithosphère. Et je trouve que ça fait 50 kg par mètre cube. C'est vachement important. La péridotite en surface, la densité, c'est 3350. Le manteau lithosphérique, c'est 3300. Et le manteau atmosphérique, c'est 3250. Toujours en kilos par mètre cube. C'est-à-dire qu'un mètre cube de manteau lithosphérique pèse 50 kg de plus qu'un mètre cube de manteau asténosphérique. 50 kg, c'est pas négligeable. Il y a quelques petites élèves dans la salle qui sont à peu près d'une masse 50 kg. Moi, c'est largement le double, mais bon. Est-ce qu'il y en a qui sont autour de 50 kg, là? Ne levez pas les doigts, mais... Donc c'est ça, le moteur de la tectonique des plaques, c'est ça. Un mètre cube de manteau lithosphérique pèse 50 kg de plus qu'un mètre cube de manteau asténosphérique. Et dans tous les mauvais cours, on dit que la densité dans la Terre augmente avec la profondeur. C'est vrai partout, sauf en surface. C'est-à-dire, là où on marque, tout ça, c'est faux. Enfin, comme on, souvent, quand on dit des choses, c'est souvent faux. Alors, attention aux unités. J'ai bien mis la masse volumique, etc. Faites très attention aux unités. Alors, avec ça, on peut faire des tas de choses intéressantes. Pourquoi est-ce qu'une dorsale, c'est haut, par rapport à une plaine abyssale? Quand j'étais à votre place, en 1977, globalement, une dorsale, c'était haut, parce qu'il y avait le manteau qui convectait dessous, qui montait, Gros morceaux, ça poussait. Et ça, la surface était maintenue haute, parce que de façon dynamique. Un peu comme l'eau est maintenue haute à l'aplomb des remous dans le port de Sainte-Honorine-des-Pertes, pour notre canois, canan, comme on dit. Canet. Donc, à côté de chez lui, il y a un port avec de l'eau, des résurgences, de l'eau qui sort. Ça fait des remous. Il ne les connaît pas, mais il faut que tu les connaisses. T'habites où ?
Je suis pas de Caen, mais je suis de la Manche. T'es ? Je suis de la
Oh, comme c'est loin, hein. Un Lyonnais connaît Sainte-Honorine-des-Pertes, mais quelqu'un de Saint-Lô ne le connaîtrait pas. Donc, et vous avez l'eau qui fait des remous qui est un peu plus haute. C'est ce qu'on m'avait appris. C'est, comme on vient de voir que c'est passif, la montée des dorsales, c'est pas pour ça que c'est haut. Mais au niveau d'une dorsale, grosso modo, ça monte, pas de banc, pas de profond, mais hop, c'est, la sténosphère est quasiment à la surface. Je néglige la croûte pour l'instant. Donc, vous prenez 100 km d'asténosphère, dont la température moyenne est 1300 degrés. Vous refroidissez ces 100 km. C'est ce qui se passe, au bout de 150 millions d'années, votre 100 km de manteau, il a tellement dérivé qu'il est froid. La température moyenne de l'éthosphère, c'est 650 degrés. Donc la hauteur de votre colonne, c'est 100 km au départ, moins le delta H, que vous ne connaissez pas, pour l'instant. Avec delta H égale 100, la hauteur initiale, alpha, coefficient d'illusion thermique, dt, ça fait 100, 2,5 10 moins 5, delta T, c'est 650 degrés, et ça fait 1,5 km. Donc vous prenez 100 km de d'asténosphère, vous faites perdre de la chaleur, et ces 100 km sont passés à une température moyenne de 650 degrés, alors ils sont rétractés de 1,5 km. Si vous n'aimez pas ce genre de dilatation, vous pouvez faire un calcul avec des pressions. Pareil, vous avez une dorsale, ça monte, pas de haut, vous avez la sténosphère, toujours pas de croûte, hein. Et je néglige l'eau de l'océan, vous avez la dorsale, la sténosphère à l'affleurement. Et puis, la lithosphère est de plus en plus épaisse, et sur une plaine abyssale, elle fait 100 km d'épaisseur. Vous écrivez, je suis auvergnat, et donc j'applique ce que j'appelle le théorème de l'équilibre des liqueurs de Blaise Pascal, grand auvergnat s'il en est. Je dis que la pression ici est égale à la pression là. C'est de la physique du 18e siècle, voire non, du 17e siècle. Donc ici, la pression, c'est 100 g, la gravité, ρ, 3300, doit être égale à la pression ici, c'est g, 100 plus delta H, 3250. Équation à une inconnue. J'en tire assez facilement delta H, 1,5 km. Que je passe par la dilatation ou l'équilibre des pressions, c'est deux versions de la même réalité. Je vois pourquoi une dorsale domine les plaines abyssales d'à peu près 1500 mètres. C'est l'ordre de grandeur, j'ai négligé la croûte, j'ai négligé l'eau, j'ai négligé les sédiments, j'ai négligé plein de choses. Et vous voyez le genre de calcul qu'on peut faire à un élève. Pourquoi est-ce qu'une dorsale est haute? Alors, deuxième calcul qu'on peut faire, c'est la poussée au niveau d'une dorsale. Il y en a quand même une petite. Alors là, on va raisonner en dispositif, on va parler des volumes d'épaisseur unité. Donc vous avez une coupe, imaginez-vous que c'est une tranche d'épaisseur unité. Épaisseur unité, ça veut dire que la surface est égale au volume, en chiffres, puisque c'est une surface et que l'épaisseur c'est unité, pour avoir le volume, je multiplie la surface par 1, ça ne change pas. Donc c'est pour simplifier. Vous regardez dans la nature, une plaine abyssale c'est à peu près 1,5 km plus bas que la dorsale, et les plaines abyssales, disons pour simplifier, c'est à 1000 km de distance. Ce qui fait que l'angle entre l'horizontale, et ici vous avez une lithosphère qui fait 100 km, donc vous voyez que l'angle ici fait 5,7 degrés. L'angle entre 0 et 100 km plus bas, enfin pas 100, 101,5 km plus bas, vous voyez, ça fait un angle de 5,7 degrés. Donc ici, vous avez quelque chose de mou. Là, vous avez quelque chose de dur. Et là, ça peut glisser sur ce plan incliné, qui n'est pas très raide, 5,7 degrés. Donc vous pouvez calculer la force qui s'applique à ce triangle, qui a 100 km ici, 1000 km là, et un plan incliné de 5,7 degrés. Alors les formules à savoir, c'est la surface d'un triangle, lors de mon temps c'était en CM1, et la force, ici vous avez la force et le poids, qu'on peut décomposer en force normale, qui ne fera pas bouger, puisqu'elle est perpendiculaire au plan, et une force tangentielle, sachant que la force tangentielle, c'est la force multipliée par le sinus de l'angle. Alors vous faites ces calculs abominablement compliqués, ça vous donne la force ici, que vous divisez par la surface, donc la longueur, puisque je prends un volume d'unité, et ça me donne que la pression ici, pas la force, mais la pression, c'est la force tangentielle par H, la force tangentielle, c'est sinus alpha. Il faut être une application numérique. Vous trouvez que la pression, simplement parce qu'il y a une pente, ça pousse avec une pression de 2500 newtons par centimètre carré. Je rappelle qu'une atmosphère, c'est 10 newtons par centimètre carré, 1 kg par centimètre carré. Alors pour tout ça, la force, c'est le poids moins la poussée d'Archimède, etc. Donc je peux calculer la poussée à une dorsale. Simplement une poussée d'origine topographique. Donc les dorsales, ça pousse un peu. Est-ce que ça pousse un peu, beaucoup, passionnément, par rapport à une subduction? Alors, calcul simplissime de la traction au niveau d'une subduction. Voilà une subduction. Je lui suppose 100 km d'épaisseur. Je la fais descendre jusqu'à 500 km par rapport à ici. La différence de densité, la force qui s'applique, c'est le poids moins la poussée d'Archimède. Et je fais mon calcul, traction de subduction, c'est la pression, c'est la force par la hauteur, etc. Et je trouve comme application numérique, une fois que j'ai tout fait, 2500 newtons par centimètre carré. Tout à l'heure, j'avais 2500 newtons par centimètre carré. Là, j'en ai 25 000 newtons par centimètre carré. Avec ces calculs simplissimes, fait ça par un élève de première, je vois qu'en ordre de grandeur, une subduction, ça tire 10 fois plus qu'une dorsale ne pousse. Voilà. C'est ce que, et ça confirme ce que montre la tomographie, il n'y a pas de machin qui vient d'en bas, etc. On est vachement content. Des questions? Ouais.
C'est vous, quand la plaque n'est pas encore en subduction, il y a juste la poussée?
J'entends pas.
Quand la plaque n'est pas
en subduction. C'est tout le problème des marches passives. Qu'est-ce qui se passe au niveau d'une marche passive? On va le voir tout à l'heure. Mais une bonne question. Pourquoi il n'y a que lui qui l'a posé? Et les autres avaient déjà la réponse, ils avaient vu le machin, ils savaient que j'allais en parler tout à l'heure. Alors, il y a deux façons de faire couler une plaque. La façon traditionnelle, vous avez, c'est une image, hein, une plaque, une zone de subduction, ça coule. Et puis comme ça tire, par exemple le point 3 est juste là, au bout d'un certain temps il est là, la plaque avance et la zone de subduction ne bouge pas. Mais une autre façon, qu'on appelle le rollback, imaginez que je vais mettre dans ce modèle-là, je mette un grand clou là, ma plaque ne peut pas bouger. Elle est fixée par un grand clou. N'empêche qu'elle est plus lourde que ce qu'il y a dessous, et qu'elle a envie de couler. Alors là, elle coule en tirant. Elle ne peut pas tirer, c'est bloqué. Alors elle coule avec la zone de flexure qui se rapproche. Donc la zone de flexure, la plaque ne bouge pas, mais elle s'enfonce. Parce que là, c'est pas facile, là, toc, 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 je ne vais pas me casser le bras. Hein. Donc il y a deux façons de faire couler une plaque. Alors cette subduction par rollback, c'est comme ça que ça s'appelle, elle peut facilement se modéliser analogiquement. Avec, par exemple, un sirop de glucose, du miel, et ici, du sucre, du silicone. Si ici c'est collé, vous voyez la plaque de silicone qui est plus dense, qui subducte en se reculant. Donc, la réalité terrestre, c'est qu'il y a souvent les deux à la fois. Nature choisie, ça c'est pas facile de se reculer, parce que la matière qui est là, il faut la repousser derrière. Par contre, si vous bougez pas, il faut glisser, et là, quand même, ça frotte. Donc la nature va choisir, entre guillemets, ce qui est le plus facile, des frottements sur toute l'interface, reculer. Mais il y a souvent les deux à la fois. Celui-là domine, le rollback, il existe, il domine pas, mais il existe. Et s'il y a un rollback, avec retrait du panneau plongeant, Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a de l'extension. Puisque, et ça s'appelle l'extension de la hiérarchie, par exemple, des bassins marginaux. Mer du Japon. Là, vous avez le Japon. Là, vous avez la mer du Japon. Alors, en plus, le slab, qu'il est froid. Donc, comme il est froid, ici, vous avez du manteau chaud qui se refroidit. Donc, le manteau chaud qui se refroidit, il va descendre. S'il descend, il va avoir des mouvements comme ça, et ça va favoriser l'extension. Puis il peut y avoir un entraînement mécanique, il y a ça qui descend. Donc il y a ça qui descend, la matière va descendre aussi. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles vous faites une extension de la hiérarchie. Le rollback en est une, mais il n'y a pas que lui. Mais il y a souvent la croûte océanique sur la lithosphère, qui joue un rôle de flotteur. Quand ce flotteur va-t-il devenir insuffisant? Je rappelle les densités. Là, j'ai des densités, ce n'est pas des masses volumiques. Hein, faites. Je m'en fous, j'ai la grègue. Donc, je fais rien, mais vous ne l'avez pas encore, donc faites très attention. Vous avez la croûte continentale, la croûte océanique, le manteau lithosphérique, le manteau asthénosphérique. Ça, par rapport à ça, c'est un flotteur. Pas très efficace, mais flotteur quand même. Ça, c'est un flotteur beaucoup plus efficace. Alors, quand est-ce que le flotteur va devenir insuffisant? Puisqu'il y a subduction, c'est qu'à un moment, le flotteur devient insuffisant. Sinon, ça ne coulerait pas. Donc, une lithosphère océanique, c'est une épaisseur de croûte. On l'appelle petit c. Quelle est l'épaisseur moyenne d'une croûte océanique, toi? Oui, au milieu, là. Qui a une chemise rose. Oui. C'est un peu beaucoup. Voilà. Alors, si tu voulais faire une réponse correcte, pour avoir le maximum de points. N'oubliez pas qu'un concours, ce n'est pas un examen. Un examen, vous en dites le minimum pour avoir au-dessus de la moyenne. Sachant que si vous en dites trop, vous pouvez risquer de vous tromper et d'avoir en dessous de la moyenne. Un concours, il ne s'agit pas d'avoir juste la moyenne, il s'agit d'être meilleur que les autres. Donc il a dit 10, ça c'est une erreur, c'est un peu épais. Après il a dit 7, c'est mieux. Mais c'est avec si tu dis 7, tu as 11 sur 20 à la question. La bonne réponse, ça serait, ça dépend du type de dorsale. Une dorsale rapide, en gros, c'est 7. Une dorsale lente, en gros, c'est 0. Tu as pris spontanément la dorsale rapide, pourquoi pas? Mais c'est qu'un des deux cas extrêmes. Pourquoi pas l'autre? Donc ça va de 0 à 7. Dans l'Atlantique, c'est plutôt 0 à 1. Dans le Pacifique, c'est 7. Donc, vous prenez, là, on va prendre une dorsale rapide. Vous avez C de croûte, on va dire 7 km, en gros. Et vous avez X fois C, par exemple 70 km de manteau lithosphérique. Ce machin-là va couler, spontanément, quand il sera plus dense qu'un égal volume d'asthénosphère. Bon vieil Archimède. Donc, le volume de ça, c'est X plus 1 fois C, donc X plus 1 fois 7, fois 3,25. Quelle est la densité de l'asthénosphère? Quand il y aura égalité, ça flottera, mais suffit de rien du tout, et ça coule. Alors ça, c'est un petit calcul qui extrait des montagnes sous la mer, qui est dans l'île d'Agreg. Si le même volume à droite et à gauche sont égaux, ça correspond à l'équilibre, et il suffit que ça domine, et ça coule. Il y a équilibre de la balance quand vous faites le calcul pour X égale 9, c'est-à-dire quand le manteau lithosphérique, le manteau refroidi, est 9 fois l'épaisseur de la croûte, avec ces hypothèses simples, la densité de l'lithosphère est égale à la densité de la sénosphère. Et la subduction devient spontanée, il suffit de refroidir un tout petit peu, c'est subducté. Pour une croûte de 7 km, océan rapide, ce qui correspond à une lithosphère océanique de 70 km, eh bien cette épaisseur est approximativement obtenue en 100 millions d'années. Donc une lithosphère océanique, quand elle a 100 millions d'années, si elle a une croûte de 7 km, elle a la densité de la sénosphère. Donc dès qu'elle est un peu plus vieille, elle doit subducter. Si elle est moins vieille, elle n'a aucune raison de subducter, sauf sur la force. Donc, quand l'épaisseur de l'lithosphère océanique, croûte plus manteau refroidi, atteint 70 km, elle doit couler spontanément, comme par exemple le Titanic. Alors, il pose tout de suite le problème, par exemple, des lithosphères jeunes, qui ont moins de 100 millions d'années, et qui n'ont pas encore subducté, et qui subductent. Et le problème des lithosphères vieilles, par exemple celles qui est au large de la Mauritanie ou des États-Unis, qui sont du Jurassique, qui sont donc plus vieilles que 100 millions d'années, et qui n'ont pas encore subducté. Donc si je prends le cas d'une lithosphère jeune qui subducte, par exemple ici, la lithosphère est jeune, elle subducte quand même. C'est un parti, on verra tout à l'heure, des questions qui ne sont pas encore bien résolues. Les chercheurs ont encore du travail à faire. Mais on peut supposer qu'effectivement, ici, la lithosphère est jeune. Elle n'a pas de raison de subducter. Mais sous elle, il y a 2900, même 3000 km de lithosphère. Et je n'ai aucune idée de l'âge de la lithosphère qui est maintenant à 2000 km de profondeur. Donc on pourrait dire que peut-être, même si ici elle est jeune, elle est entraînée par ce qui est dessous, qui était peut-être moins jeune, je ne sais pas. Donc c'est une proposition d'explication, la jeune lithosphère au début de son cours. D'ailleurs ici, le pendage de la subduction est paraide, on ne le voit pas ici, mais la lithosphère a du mal à s'enfoncer parce qu'elle est jeune. Mais si elle est tirée par ce qui est dessous, donc, voilà. Alors il y a un problème. Quand une lithosphère atteint sa densité critique, 3,25, croûte plus manteau supérieur, et qu'une subduction commence, la lithosphère s'enfonce. Donc elle se réchauffe, pas beaucoup. Elle reste toujours plus froide qu'à côté, mais elle se réchauffe un peu. Donc au début, elle avait juste la densité de la sténosphère, un tout petit peu plus. Elle s'enfonce, donc elle se réchauffe, donc elle s'allège. Vous êtes d'accord? Si elle s'allège, sa densité diminue un peu, ça redevient inférieur à celle de la sténosphère. Et l'enfoncement devrait s'arrêter. À cause du rôle de flotteur que représente la croûte océanique. La croûte océanique, c'est pas dense, parce que c'est du basalte ou du gabbro, alors que le reste c'est de la péridotite. Et comme vous réchauffez la péridotite qui est dessous, eh ben, ça vient de la péridotite chaude, et le flotteur est toujours là, de toute façon. Donc ça ne devrait pas s'enfoncer. Il ne devrait pas y avoir de subduction à cause du rôle de la croûte océanique qui est un flotteur. Pas très efficace, mais flotteur quand même. Et j'ai mis, heureusement, Dieu a inventé les éclogites. Vous avez ici Dieu en train de créer une éclogite. Parce qu'une éclogite, c'est une densité de 3,4, 3400 kg par mètre cube. Le basalte et le gabbro, quand on le subducte, ça devient une éclogite, passé 60 km. Or, la transformation de la croûte en éclogite, basalte ou gabbro, c'est 2,8 comme densité. L'éclogite, c'est 3,4. Dieu, qui a inventé les éclogites, il a fait que la forme de haute pression du basalte est plus dense que le manteau. Le manteau, c'est 3,3 pour simplifier. L'éclogite, c'est 3,4. Donc, la croûte, qui avait un rôle de flotteur, dès qu'il devient éclogite, a un rôle de lest. Et là, ça change tout. Regardez, une dorsale, avec une croûte standard, 7 km d'épaisseur, 2,8 de densité. Dessous, le manteau lithosphérique, densité moyenne, 3,3. Une variation continue entre 3,35 et 3,25. 3,3. Et la sténosphère en dessous, 3,25. Quelle est la densité de la lithosphère, ici, sous une dorsale? Il n'y a pas de manteau lithosphérique sous une dorsale. Sous une dorsale, le manteau chaud affleure sous la croûte. Donc la densité de la lithosphère, ici, c'est 2,8. Ici, je suis un peu plus loin, la croûte et le manteau lithosphérique ont la même épaisseur. Donc la densité, ici, au point 2, c'est la densité de la croûte, plus la densité de la croûte fois l'épaisseur, plus la densité du manteau lithosphérique fois la densité, divisé par 2, c'est la moyenne. Et trouvez que la moyenne, entre 2,8 plus 3,3 sur 2, ça fait 3,05. 3,05, ça flotte. Ici, une épaisseur, 4 épaisseurs. Ça fait 2,8 plus 4,4 fois 3,3, divisé par 5, 3,20. Ça flotte. 4, 3,24. Ça flotte encore. Pas beaucoup. Ici, 5. Vous avez 9, le manteau lithosphérique, c'est 9 fois, on a vu que c'était la densité critique, l'épaisseur de la croûte. Donc la densité moyenne de la lithosphère, c'est la densité de la croûte, plus 9 fois la densité du manteau, sur 10, 3,25, hop, et ça coule. Et quelle est la densité ici? Le problème, c'est que la croûte, elle est passée de 8 à 3,4. Et là, la densité de la lithosphère ici, c'est 3, 4, plus 9 fois 3, 3, la densité du manteau de fer, sur 10, ça fait 3, 31. Et 3, 31, c'est bien plus dense que 3, 25. Donc, dès que la croûte océanique s'est un petit peu enfoncée, son rôle de flotteur devient un rôle de lest, de tracteur, et ça coule. Heureusement que Dieu a inventé les éclogites.